Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal présenté par Patience Ngalula Mbombo. Au sommaire de ce journal, Corneille Nanga et consort condamné à la peine de mort et à d'autres sanctions pénales. Verdict de la cour militaire de Kinshasa Gombe à son audience publique de ce jeudi à la prison militaire de Ndolo. Amélioration du pouvoir d'achat de la population, les gouvernements s'y attellent. L'exécutif envisage notamment la réduction des taxes et redevances, mais aussi la lutte contre les tracasseries pour y arriver. Notre invité est le coordonnateur du groupe Compassion aux orphelins de Goma. Sami Munganga parle de la campagne dénommée Yatima Chouleni, lancée par sa structure dans le but de réunir des moyens matériels et financiers pour préparer la rentrée scolaire 2024-2025 en faveur de quelques enfants orphelins. Bonsoir. Peine de mort, arrestation immédiate des prévenus défaillants, confiscation de tous leurs biens sous séquestre et paiement d'une amende d'$1 milliard à la République pour les préjudices subis. Ce sont là les sanctions pénales infligées à Corneille Nanga et consorts par la cour militaire de Kinshasa Gombe à son audience publique de ce jeudi à la prison militaire d'Ndolo. 5 de 26 prévenus présents ont été reconnus coupables de trahison et de participation à un mouvement insurrectionnel. Nanga et ses compagnons en fuite ont été reconnus coupables des crimes de guerre et des deux préventions qu'écopent les prévenus en détention, sauf la trahison pour les étrangers. Ils ont 5 jours pour interjeter appel contre cette condamnation. C'est un motif de joie et de fierté pour la justice militaire qui a su juger ces prévenus en un temps record, d'après les ministres de la Justice. Pendant ce temps, en Nord-Kivu, la coordination provinciale de la société civile Force Vive exige la relance des opérations offensives contre le M23 RDF. Elle s'est ainsi exprimée à travers un communiqué officiel rendu public mercredi 7 août à Goma. Les présidents de cette structure déplorent, entre autres, la conquête par la rébellion du M23 de plusieurs autres localités pendant la trêve humanitaire de 30 jours, observée par l'armée congolaise, laquelle trêve a été suivie par un accord de cesser le feu. Écoutons John Banyene dans ses propos recueillis par Bernardin Nyangui.
On vit la dégradation rapide de la situation sécuritaire due aux avancées du M23 RDF AFC. La société civile Force Vive recommande au chef de l'État et commandant suprême de FRDC de mettre fin au cessez-le-feu unilatéral observé par les FRDC et ordonner urgemment l'organisation des opérations militaires généralisées sur toutes les lignes de front en vue de reconquérir tous les espaces sous l'emprise de l'ennemi. Les informations démontrent que c'est sous la trêve humanitaire du 24 au 31 juillet 2024 que le M23 a conquis des entités aux environs du village de Kaira, en chefferie de Bachali, en territoire de Massissi, mais aussi la prise des villages de Ngwenda, Kisharo, Nyamirima, Ishasha et Nyakakoma du 2 au 6 août 2024. Cet aspect expose déjà Butembo et Beni aux avancées du M23 RDF qui pourraient se servir du lac Édouard à Nyakakoma et Vichumbi pour y parvenir.
Du côté du Tanganyika, le gouverneur lance un ultimatum aux groupes armés qui écument la province. Dans une communication ce mercredi à la population, Christian Kitungwa leur donne 30 jours pour déposer les armes. Et dépasser ces délais, les récalcitrants seront contraints de les faire par la force, précise-t-il. On écoute Christian Kitungwa dans cet extrait choisi par Paulin Munanga.
L'ère de l'impunité étant révolue, j'invite toutes les forces négatives ainsi que leurs commanditaires qui sévissent dans la province à déposer leurs armes, et c'est en déant 30 jours, et à revenir à la raison. Passé ces délais, les forces de l'ordre utiliseront tous les moyens à leur disposition pour anéantir les récalcitrants. S'agissant particulièrement de l'insécurité, comme dans le cas récent du village Tumbwe, où, accompagné de membres du Conseil de sécurité, pour m'enquérir de la source, le dégât humain et matériel causé par la faction Bitonto. J'ai apporté une assistance en vivres et en non-vivres.
Amélioration du pouvoir d'achat de la population, je le disais au sommaire, le gouvernement envisage la réduction des taxes et redevances, mais aussi la lutte contre les tracasseries. Ces premières mesures envisagées par l'exécutif ont été examinées au cours du Conseil des ministres restreint présidé hier mercredi par le président Félix-Antoine Tshisekedi. Selon les porte-parole du gouvernement, outre ces mesures, les membres du gouvernement ont adopté les projets de prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. D'autres détails avec vous, Blaise Makassi.
Le président Félix Tshisekedi, qui conduisait cette réunion, a abordé avec les membres du gouvernement les premières mesures prises qui concernent essentiellement la baisse des prix des denrées de première nécessité. Ces principales denrées ont été identifiées et des mesures ont été proposées, notamment ce qui concerne la réduction des taxes et redevances, ainsi que la lutte contre les tracasseries dans différents secteurs, a relevé Patrick Muyaya. Les ministres de l'économie nationale et des finances sont appelés à harmoniser les vues pour que ces premières mesures soient adoptées formellement au prochain Conseil des ministres. Rappelons qu'au cours du deuxième Conseil des ministres du gouvernement souminois, le président de la République avait souligné la nécessité de stabiliser la monnaie nationale pour préserver le pouvoir d'achat de la population. Il avait notamment demandé urgemment la réévaluation des mesures prises pour stabiliser le taux d'échange et relever les sociales des Congolais. Parmi ces mesures figurait la protection et le renforcement du pouvoir d'achat des Congolais mis à mal par la situation qui prévaut sur le marché d'échange.
Et puis, publication hier mercredi tard dans la nuit de la liste provisoire retenue aux différents postes du bureau définitif du Sénat. Aucune candidature déposée au bureau de réception n'a été rejetée. L'examen des candidatures s'est déroulé sous une très forte tension suite à la tentative d'invalidation de certaines candidatures. Certains proches de Jean-Michel Samalou Kondé commençaient déjà à dénoncer sur les réseaux sociaux la tentative d'invalidation de leur candidat par les pro-UDP. Après de longues heures de discussion, la commission a convenu la validation de toutes les candidatures afin que les élections départagent tous ces candidats. Michel Kifindangoy.
C'est une vraie bataille qui s'annonce à l'élection des membres du bureau définitif du Sénat. Pour 7 postes disponibles, 19 sénateurs sont dans la course. Alphani Idrissa de l'UDPS, Jonas Munkamba des alliés de l'UDPS et Samalou Kondé de la B vont s'affronter pour la présidence du Sénat. La première vice-présidence va mettre aux prises José Kalala et Christophe Lutundula, ancien vice-premier ministre des Affaires étrangères. À la deuxième vice-présidence, Modeste Bahati Lukwebo, président sortant du Sénat, doit faire face à la candidature de Corneille Isengé et Eustache Mouanzi. Au poste des rapporteurs, Ivan Kankonde s'affrontera avec Jean Bamanissa, Crispin Kalumba et Nefertiti Ngundianza. Au poste de rapporteur adjoint, qui revient à l'opposition, Salomon Idi Kalonda devra faire face à Jean-Claude Bayende. À la question, Carole Aguito est en course contre Moïse Ekambo et Sylvain Mukengeshai. Et à la question adjoint, Isabelle Kabamba fera face à la candidature de Pascal Omana.
Rendons-nous en Ituri, où les habitants de 4 villages déguerpis depuis l'érection de la réserve de faune à Okapi en 1992 réclament de retourner dans leurs entités dans la chefferie de Walesekaro, dans les territoires de Mambasa. Une délégation du ministère national de l'Intérieur a clôturé mardi une mission sur place en vue de décanter ces conflits des limites qui persistent depuis 22 ans entre les communautés locales et la RFO. Selon les constats faits par cette délégation mixte, des traces de l'existence humaine sont encore visibles dans les milieux. Isaac Remoyope.
Plus d'un millier d'habitants des 4 villages de Walesekaro vivent depuis 22 ans dans des localités voisines. Ils ont été déguerpis de leurs milliers d'origine pendant l'érection de la réserve des faune à Okapi en 1992, ce qui était à la base des conflits permanents entre la population locale et les responsables de ces patrimoines mondiaux. Ces conflits étaient émaillés parfois de violences, dont les tueries des 12 Okapi vers 2012 par un groupe armé local des Mai Mai. Une délégation du ministère de l'Intérieur s'est rendue sur place pour évaluer les revendications des communautés locales qui soutiennent que leurs parents ont vécu dans ces villages avant l'érection de cette réserve. Des arbres plantés, des mines d'or qui étaient exploitées par leurs ancêtres ont été retrouvés sur place. Pour ces autochtones, le gouvernement doit redéfinir les limites de la RFO et faciliter leur insertion dans leur milieu d'origine. Luc Malembe, un membre de cette délégation pour le compte de la communauté locale.
Nous, on a complété pour que les autorités laissent la rentrée dans leur village. Encore que dans la RFO, il y a des endroits où habiter, c'est une réserve, c'est pas un garde nationale. Vous avez d'ailleurs des grands centres de Lagos comme Badenaïdo, comme et tous nous qui sont en pleine réserve. Mais pourquoi quand ça devient ce genre de bâtiment-là, on leur étudie?
Le ministère national de l'Intérieur ne s'est pas encore prononcé sur l'issue de ces litiges fonciers qui persistent depuis des décennies. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Autre nouvelle, près de 200 opérateurs pédagogiques du préscolaire venus des différentes provinces de la RDC et du Congo-Brazzaville se préparent pour affronter la rentrée scolaire 2024-2025. À l'issue d'une session de formation de 3 jours à Kinshasa, ils ont suivi des modules nécessaires axés sur les thèmes, les coulisses de la rentrée scolaire, c'est-à-dire renforcer les capacités des éducateurs en vue de bien accueillir et encadrer les élèves de la maternelle à la prochaine rentrée scolaire. Par ailleurs, hier, à la clôture de cette formation, les participants ont évoqué les problèmes de l'indisponibilité du programme d'enseignement préscolaire. Ce programme n'a pas été vulgarisé dans bon nombre de provinces éducationnelles, faute de financement. Des détails avec Askin Zigbiatayoro.
Le langage a été clair au niveau du Service national de formation des enseignants, CERNAFOR. Il n'y a que 18 provinces éducationnelles sur 62 qui ont reçu officiellement le programme national d'enseignement préscolaire. Ce programme a été financé par la Banque mondiale en vue d'améliorer la qualité de l'éducation des enfants du maternel. Il est défini également dans ce programme 28 normes à suivre par les opérateurs pédagogiques pour rehausser la qualité de l'enseignement préscolaire. Blanchard Mbuelo, l'un des formateurs.
Ce que l'enfant vit à la maison, les répercussions sont à l'école. Et ce que l'enfant trouve à l'école, les répercussions sont au niveau de la maison. Il faut qu'il y ait une complicité entre école et la famille.
Le participant appelle le gouvernement à soutenir la vulgarisation de ce programme préscolaire dans les autres provinces éducationnelles n'ayant pas encore formellement reçu la formation sur les 10 programmes. Il faut noter que les travaux de ces assises ont été organisés par l'Organisation mondiale de l'enseignement préscolaire, OMEP, en collaboration avec l'Agence pour la promotion de l'enseignement APE, une activité qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la 3e édition de la grande fête du préscolaire qui aura lieu le 10 août à Kinshasa.
Au Kasaï oriental, la société minière de Bakwanga, MIBA, a acquis un premier lot d'engins roulants destinés à la relance de ses activités minières. Ils ont été acquis grâce au paiement par l'État de 2 millions de dollars sur la créance vis-à-vis de la minière de Bakwanga. Ces engins ont été présentés officiellement ce mardi au gouverneur des provinces, aux membres du Conseil provincial de sécurité, aux agents et travailleurs de la société minière de Bakwanga, MIBA, au chef traditionnel de Bakwanga en présence d'un représentant du ministre du portefeuille à mission en Mbujimayi. Des explications avec Esther Ndalafina.
Au cours de la cérémonie, Corneille Mbikai, directeur technique, a énuméré la liste des outils de production présentés aux autorités provinciales.
Nous avons une pelle Volvo, une chargeuse, deux camions Ben, une camion citerne de marque Tata. Nous avons les véhicules utilitaires, deux bus Tata, les 5 pick-up Mahindra.
Docteur André Kabanda, directeur général de la MIBA, a invité le personnel à se mettre au travail.
Dès demain, commencez le travail de production, car c'est seulement par la production et les recettes qui en découleront que nous pouvons résoudre progressivement les problèmes.
Jean-Charles Okoto, président du conseil d'administration de la MIBA, a mis en garde les agents et travailleurs contre les antivaleurs.
Tout vol, toute destruction méchante, toute soustraction frauduleuse seront sévèrement sanctionnés. Nous savons que certains d'entre vous sont des convenances avec des prédateurs qui opèrent au polygone. Tout doit immédiatement cesser.
Le gouverneur de province, Jean-Paul Bouébouekapo, a demandé aux agents de bien travailler.
Ne vous fatiguez pas, vous avez déjà supporté la souffrance pendant beaucoup d'années.
Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
À Kinshasa, l'Institut national de la statistique a présenté le 6 août dernier les rapports des indicateurs clés de la grande enquête sur la démographie et la santé des Congolais EDES-RDC-3. Plus de 26 000 ménages à travers les 26 provinces de la République ont servi d'échantillons dans la collecte des données sur la santé et le bien-être des citoyens congolais. Comment se présente les premières tendances de cette enquête EDES 2023-2024? Les détails avec Jody Daniel Kachama.
Avons-nous fait des progrès ou non en ce qui concerne la santé et le bien-être des Congolais? Les hommes et les femmes se sont exprimés sur divers aspects. Conditions de vie des ménages, la fécondité des femmes, la planification familiale, la vaccination et autres. Le professeur Bernard Loutou-Tala, démographe et coordonnateur de ces enquêtes, révèle les premières tendances.
Quand on regarde les tendances, il y a des domaines dans lesquels la situation s'est améliorée, comme l'instruction de la femme, comme le fait de dormir sous une moustiquaire imprégnée. Ça, là, il y a eu des avancées qu'on a observées. Par contre, dans certains autres domaines, comme la vaccination, il y a eu une baisse par rapport à ce qu'on avait observé en 2013. Ça, c'est un travail préliminaire. Et nous continuons les analyses, nous reviendrons vers vous dans quelques mois avec les grands rapports.
Pour sa part, le vice-premier ministre du plan, Guy Lengyembo, invite toutes les organisations évoluant dans les secteurs de la santé de se servir de ces indicateurs dans la planification de leurs interventions.
Le présent rapport peut déjà servir à la planification, à la mise en œuvre ainsi qu'à l'évaluation des programmes et des projets.
Rappelons que les enquêtes démographiques et de santé sont organisées tous les 10 ans afin de permettre aux décideurs de prendre des décisions éclairées dans la planification des interventions pour améliorer la santé et le bien-être de la population.
Actualité internationale. Les forces de sécurité nigérianes ont arrêté 7 ressortissants polonais, 6 étudiants et un conférencier pour avoir prétendument arboré des drapeaux russes lors des manifestations contre les difficultés économiques dans ces pays d'Afrique de l'Ouest, ont annoncé mercredi les autorités nigérianes et polonaises. Les Polonais ont été arrêtés lundi dans l'état de Kano, dans le nord du pays, en raison de l'endroit où ils se trouvaient pendant les manifestations et parce qu'ils arboraient des drapeaux étrangers, a déclaré Peter Afunanya, porte-parole des services secrets nigériens, lors d'une réunion des diplomates organisée par le ministère nigérian des Affaires étrangères à Abuja, la capitale du pays.
L'invité.
Yatim Achouleni, c'est la campagne lancée par les groupes Compassion aux orphelins de Goma. Le but est de réunir des moyens matériels et financiers en vue de préparer la rentrée scolaire 2024-2025 en faveur de quelques enfants orphelins. Pour en parler, nous recevons comme invité Sami Munganga. Il est le coordonnateur du groupe Compassion aux orphelins. Il s'entretient avec Chris Mukand.
Sami Munganga, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qu'on peut retenir du groupe Compassion aux orphelins?
En fait, Compassion aux orphelins est une structure caritative œuvrant dans la ville de Goma, une structure de jeunes chrétiens qui s'unissent tout simplement pour offrir le bien-être social, éducatif, culturel et accompagner les orphelins dans le besoin urgent. Et c'est un groupe qui œuvre aussi dans l'entrepreneuriat de la jeunesse, mais aussi l'encadrement de la jeunesse.
Les objectifs, les visées de ce regroupement?
On a beaucoup d'objectifs. Entre autres, nous voulons premièrement offrir les orphelins les plus grands soutiens qu'ils peuvent avoir besoin. Entre autres, nous voulons créer un orphelinat pour héberger les orphelins. On ne veut pas vraiment les laisser dans les familles d'accueil. Mais aussi, nous voulons créer les sources de revenus pour la jeunesse, pour que la jeunesse soit vraiment bien outillée. À ces derniers temps, nous observons les jeunes qui font des choses qui n'ont pas de sens parce qu'ils ont manqué l'encadrement, ils ont manqué le soutien financier. Alors nous voulons vraiment faire quelque chose à cette jeunesse pour que nous ayons vraiment une jeunesse dynamique et forte.
D'accord, peut-être que nous allons revenir encore sur le fonctionnement de votre structure, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la campagne Yatima Shuleni. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on peut retenir de ça?
Vraiment, nous sommes des Swahilophones et on a voulu faire ça toujours en Swahili. Yatima Shuleni. Et on ne veut pas vraiment faire ça comme étant une activité. Nous voulons faire ça comme un projet. Parce que si on devrait faire ça comme une activité, on devrait juste distribuer les kits scolaires aux orphelins et ils devraient revenir au cours avec les kits scolaires. Mais on n'a pas voulu juste distribuer parce que même si on devrait distribuer, s'il n'y a pas la prise en charge scolaire, ils ne devraient pas poursuivre les cursus scolaires. C'est par là qu'on a dit faisons ça comme Yatima Shuleni pour dire les orphelins aussi ont droit à étudier, ont droit aussi à vivre pleinement comme les autres enfants parce que nul n'a voulu être orphelin. Yatima Shuleni, c'est quelque chose qu'on va faire pour soutenir la scolarité des orphelins, mais aussi les donner les kits scolaires. Et on commencera avec les kits scolaires, les fournitures scolaires, mais aussi on va supporter la charge scolaire de ces orphelins.
Alors, ça va se passer concrètement comment? Vous avez de l'argent dans un compte et vous voulez acheter des fournitures scolaires à ces enfants orphelins et les prendre en charge?
On n'a pas vraiment beaucoup de choses. On est en train de faire des petites souscriptions, les dons. Il y a ceux-là qui sont entrés de dire, moi, avec les 18 cahiers que je fais faire à mon enfant, je vais aussi donner 2 ou 3, 4, 5 cahiers pour vraiment soutenir les orphelins. Au lieu que j'achète 1 giga, 2 mois de 10$, laisse-moi vraiment ça. Sacrifier les 10$ là de giga et soutenir même avec un cahier, deux cahiers pour remettre ses enfants au banc de l'école.
Donc vous êtes sûr que vous allez prendre en charge tous les orphelins qu'il y a sur la ville de Goma par exemple?
Avec tous les orphelins de la ville de Goma, on aura vraiment du mal à y arriver. Mais l'année passée, on a commencé avec 10, cette année on ira avec 15. Et petit à petit, on sera en train de progresser, on sera en train d'améliorer les nombres. Et un jour, nous croyons qu'on va prendre même 200, voire même 1000. Parce qu'avec le futur, on peut même vouloir avoir une école où mettre ses enfants pour qu'ils étudient aussi comme les autres enfants.
Vous les sélectionnez où, ces enfants?
Ces enfants sont sélectionnés suivant des critères. Premièrement, il doit être un orphelin de père ou de mère. Aussi, cet orphelin doit habiter dans 3 quartiers, soit Katoï, Kasika ou les quartiers Ndosho, parce que c'est là où l'école, là où on va le mettre, c'est là où se trouve cette école en question. L'orphelin doit être vraiment quelqu'un qui est vraiment stable moralement, parce que si on peut prendre quelqu'un qui est un peu troublé, qui a un peu des problèmes, un peu de la gestion de soi-même, il peut créer des soucis au niveau scolaire.
Sami Munganga, l'important ici, c'est le message que vous allez passer par rapport à cette campagne.
Nous appelons toute la ville de Goma d'être derrière cette initiative. Quand un enfant reste sans étudier, imaginons un peu ce qu'il peut devenir dans 2 ou 3 ans. Vous avez un cahier, vous avez un stylo, vous avez un 10$, vous avez un 100$, vous avez tout ce que vous pouvez avoir, tout geste compte pour que ces orphelins étudient aussi comme tout autre enfant.
Sami Munganga, nous rappelons que vous êtes coordonnateur du groupe Compassion aux orphelins. Nous vous disons merci.
Merci.
Et c'est par ici que nous mettons un terme à cette édition d'information vespérale sur Radio Kapi, mise en onde par Dieudonné Nyangasa wa Nyangasa, supervisée et coordonnée par Pele Kipela Mondo et Jude Bilanda Kumar. Je suis Patience Ngalula Mbombo à la présentation. Merci à vous tous de l'avoir suivi.